Vous écoutez
RMC.
RMC.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur du genre. Allez, décide, comme je l'ai dit autrefois, je serais au Real.
Ces matchs-là l'année dernière, où il y a deux ans, on y allait toujours un peu en demi-molle. Excusez-moi.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit sur RMC, sur la chaîne After Foot TV, bien sûr, en direct comme tous les soirs, l'after première radio de France. Avec Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Florent Gautreau est là également. Salut Florent.
Salut à tous.
Jean-Louis Tour.
Salut tout le monde.
Salut Jean-Louis. Jean-Louis qui revient de Pologne.
Bien sûr.
On en parlera tout à l'heure.
T'es pas blessé toi?
Non, ça va.
Ah, ça va. Ça va.
Ouais, je passe un très bon moment, c'est très sympa.
Parce qu'on avait envoyé une lettre à la...
un peu trop sur ton séjour en Pologne, mais bon.
Sur Wrocław?
Tu survends un peu, tu survends beaucoup.
Non, mais malheureusement, tu n'iras jamais, Daniel. Mais je sais que Gilbert ira.
Bien
sûr. Et c'est très sympa.
Pays de l'Est, paradis.
Il confirmera.
Pas de problème.
L'événement ce soir dans l'After, les gars, c'est la présence avec nous de Joseph Hougourlian, propriétaire du Racing Club de Lens. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
On est ravis de vous avoir parce qu'avec Franck Macomte, vous, propriétaire de l'OM, vous avez tiré la sonnette d'alarme dans le Figaro concernant la gouvernance du foot professionnel français. C'est un sujet qu'on aborde dans l'After depuis des années.
Et surtout depuis un an.
Et surtout depuis un an. Et avec vous dernièrement d'ailleurs, on en a déjà parlé dans l'After.
Donc oui, malheureusement, force est de constater que le sujet reste très présent et que les clubs ont du mal à s'en saisir. Mais là, je pense que l'événement, c'est le fait que Franck McCourt et l'OM se soient prononcés. Et je pense que le football peut leur en être très reconnaissant parce que c'est un gros club et ils pourraient parfaitement choisir finalement de se mettre avec les gros clubs, décider de, bon, nous, de toute façon, on joue de la Champions League tous les ans, donc le sujet des droits domestiques, c'est un sujet relativement marginal pour nous. Et en fait, ça nous va presque bien d'avoir une ligue à deux vitesses.
On va détailler tout ça dans quelques instants. Je signale que tout à l'heure, nous aurons également avec nous David Terrier, qui est le président de l'UNFP, le syndicat des footeux, et aussi le président de FIFPro Europe, le syndicat des footballeurs.
Qui lui aussi a son mot à dire dans le débat qu'on va mener dans un instant.
D'autant qu'il est membre du CA de la LFP, qui décide de beaucoup de choses. Mm-hmm. On parlera aussi avec lui des cadences infernales, dont parlait Koundé et Mbappé la semaine dernière, et de l'arrêt d'Iara qui est important, sans oublier le match de demain face à l'Islande. Et puis on a d'autres matchs ce soir. Match très important pour l'Italie qui joue face à Israël. Il y a toujours un partout.
Il y a 3-2 pour l'Italie.
3-2
Italie.
Bon.
Ça va vite.
Ça va aller vite. Il y a doublé de Keane notamment. Il y a eu un but refusé pour Israël en début de match totalement scandaleux avec une boulette de Donnarumma mythique. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Il a fait une Sébastien Frey.
Voilà.
Une Mickaël Landreau plutôt, pardon.
J'ai pas du tout compris le scandale, mais si vous parlez de ça.
Non. Bon, d'accord. On en reparlera tout à l'heure de ce match. Bon, allons-y. Alors oui, c'est vrai que Joseph Hougourlian, vous étiez avec nous déjà il y a quelques mois, on en avait parlé, donc on connaît votre position globalement. Mais Franck McCourt, on était un peu surpris, Daniel, et nous on s'est étonné dans l'after de ne pas l'entendre, de ne pas entendre l'OM de façon générale sur les sujets de gouvernance d'ailleurs ces derniers mois.
Alors, est-ce qu'il fallait être étonné ou est-ce que c'était plutôt de notre part une sorte d'appel à ce que l'autre grand club en France réagisse à la situation catastrophique du foot français et de la gouvernance à la LFP. Je ne sais pas s'il nous a entendu, en tout cas il a certainement entendu Joseph Hougourlian et il a pris conscience que notre championnat était peut-être en passe de ne plus exister ou en tout cas d'exister différemment. On l'a dit maintes fois, deux vitesses, mais alors vraiment deux vitesses, c'est d'un côté le ralenti total et de l'autre des clubs qui vont penser qu'à eux. Joseph Hougourlian vient de le dire dans son introduction tout à l'heure, en fait c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Il y a des clubs aujourd'hui qui, au vu de la situation économique, se sont dit on peut très bien vivre de notre côté et on peut laisser, entre guillemets, crever les autres. Parce que les Coupes d'Europe peuvent nous donner de l'argent. On parle même pas du PSG qui peut organiser des tournées, qui peut faire le mondial des clubs. Le PSG, ils ont abandonné la Ligue 1. C'est terminé, ça ne les intéresse plus. Et McCourt aurait pu faire partie de la bande des égoïstes. C'est pour ça que je trouve absolument remarquable cette séquence et le fait qu'il arrive enfin dans cette bataille et que j'espère il sera suivi par Michel Kang aussi. Monaco, je pense qu'il faut définitivement jamais compter sur eux. Donc c'est ce tableau que j'aimerais bien que vous nous expliquiez dans ce que vient de faire Franck McCourt. En quoi le tableau, la table est renversée maintenant?
Non, je pense qu'effectivement c'est une prise de parole qui est très importante et il y a 7-8 clubs en France qui aspirent ou pourraient aspirer à jouer la Ligue des Champions. Ils en ont les budgets, ils en ont les capacités financières, ils ont le soutien de l'actionnaire ou juste la taille.
7-8, c'est beaucoup, hein. Je ne sais pas où vous les trouvez.
Oui,
mais...
bah, j'ai une assez bonne idée.
Et, allons-y, c'est assez facile.
Paris, Marseille,
Lyon.
Lyon, pour l'instant, non. Lyon ne peut pas être mis là-dedans. Avec
Lyon, naturellement, doit aspirer.
Oui, mais le temps que l'argent revienne, on ne peut pas les mettre dedans pour l'instant. Monaco, 3. Mm-hmm. Lille, dans une chouille moindre mesure, mais on les met là. Okay, ouais, on les met. Strasbourg, désormais.
Strasbourg, avec le mercato qu'ils ont fait, je crois qu'ils peuvent plus se cacher.
5. Mais je vais
Rennes,
pas.
Daniel.
Rennes a fait un mercato aussi.
Non, Rennes. Rennes a des moyens, oh.
Bah, si tu mets Rennes a plus de moyens que Lyon par rapport à ça.
Oui, je mets pas Lyon dedans.
Donc,
je pense que mettez Lyon, Rennes dedans, et peut-être un huitième.
Il y a une catégorie.
Et peut-être le Paris FC qui a des moyens quand même, qui a quand même un budget de plus de 100 millions cette année.
À terme, oui. Alors, il y a une catégorie de clubs qui peut espérer une fois de temps en temps, et il y a une catégorie de clubs qui veulent monopoliser l'espace. Paris prend une place. Monaco, Marseille peuvent monopoliser cet espace-là. Je pense que c'est la réflexion de Monaco. C'est pour ça qu'ils ne s'engagent sur rien. Ils se disent, peu importe ce qui se passe derrière nous, tant qu'on verrouille. D'ailleurs, moi, j'ai vu à la fin de la saison dernière, ils se sont pas foulés plus que ça. Quand ils ont verrouillé, quand ils ont compris que la place en Ligue des Champions était là, le reste, on s'en fout complètement. Il n'y a toujours pas d'intérêt collectif à la LFP, Joseph Oukourian. Il n'y a toujours pas la volonté de bosser tous ensemble.
Non, je pense qu'en fait, on sent bien que la LFP ne travaille pas pour la Ligue, si je puis dire. Elle travaille pour quelques clubs.
Ça veut dire un club, ça? C'est le PSG, ça.
C'est devenu un secret de polichinelle. Donc, autant affronter ce sujet-là. Et je pense qu'en fait, les ligues qui ont le plus de succès sont celles qui, au contraire, ont été plus égalitaires, sont celles où, au contraire, le président de la ligue, quand il a fallu faire face aux gros clubs, il a pris son courage à deux mains et il a défendu, l'intérêt de la Ligue, l'intérêt des clubs. Je pense à Javier Tebas, notamment en Espagne, qui a eu une guerre dure, longue, qui continue d'ailleurs avec les gros clubs espagnols. Moi, les gros clubs, je les comprends. Quelque part, je suis pas forcément d'accord avec eux d'un point de vue philosophique. Je pense que McCourt, lui, il a... compris quelque chose qui est, en tout cas, il y a une vue du monde qui est de dire la valeur de mon club est plus élevée si la valeur de la ligue dans laquelle on joue, en fait, est plus importante. Mais je comprends qu'un club comme le PSG dise, moi, je ne joue pas la Ligue 1, en fait, je joue la Champions League tous les ans. La Coupe de France, la Ligue 1, je les joue parce qu'il faut les jouer. Mais mon championnat, celui qui m'intéresse, c'est la Champions League. Donc moi, j'ai pas de problème, si je puis dire.
Ça fait pas beaucoup de matchs au final, malgré tout. Moi, je peux comprendre cette réflexion.
Non, mais après,
d'ailleurs, on a bien compris que c'était ça l'idée.
Il y a la FIFA qui va venir avec la Coupe du Monde.
C'est pour ça qu'ils militent pour la Coupe du Monde de clubs tous les deux ans, finalement, et pas tous les quatre.
Elle va se faire tous les deux ans.
Oui, bien sûr qu'elle va se faire.
Donc après, il y a les tournées. Après, il y a une infinité. Et quelque part, les gros clubs, qu'on se soit en France ou ailleurs, il y a toujours la tentation de dire « Mais qu'est-ce que je fais à jouer contre le 18e de L1 alors que je pourrais être en train de jouer un beau match de gala contre la Juve, le Bayern ou Liverpool ?»
Mais hein? qu'est-ce que disent les gros clubs ailleurs?
Aux États-Unis ou les types...
ou au Qatar, après tout, c'est à la maison.
Au Qatar, peu importe. Mais quelque part, moi je comprends ça. La seule chose, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est la position de la Ligue, de sa gouvernance et quelque part pendant trop longtemps d'un certain nombre de clubs.
Alors, je reformule ce que vous dites avec Franck McCourt, c'est qu'en gros la Ligue, sa vocation première, ça devrait être de défendre les petits et pas les gros.
Tous les clubs, le football français doit faire en sorte que la Ligue soit forte, compétitive.
Ça devrait être de défendre son produit, ça devrait être de défendre sa Ligue. Par exemple, passer de 20 à 18, dans le monde des médias, vous êtes bien placé pour le savoir, si vous vous retirez de l'espace, il est occupé le lendemain. Je veux dire, si vous coupez votre émission et vous dire non, finalement, on va faire ça une fois toutes les semaines, il va y avoir d'autres personnes qui vont venir et qui vont prendre votre place. C'est pas qu'il y aura un vide. C'est la même chose dans le football. Si jamais on passe de 20 à 18, puis de 18 à 12, bah, les week-ends vont être occupés, l'UEFA va venir, il y aura des matchs de gala, enfin, il va se passer des choses. Les gens vont continuer à jouer au football. Et donc, il faut occuper son terrain, il faut vendre son produit. Et pour avoir un bon produit, bah, il faut avoir une ligue plus ou moins équilibrée. Moi, quand j'ai repris le club, quand j'ai repris Lens, on était en L2, on a 6 millions d'euros de droits télé en L2. Bon, là, cette année, les droits domestiques, pour Lens, ça va sans doute être marginalement au-dessus de 3 millions. Si on m'avait dit, il y a 10 ans, ton espérance, étant passé en L1, et ayant joué plus de 6 saisons en L1, c'est de toucher la moitié de ce que tu touches en L2, ouais, je ne sais pas si je me serais motivé pour faire tout le travail qu'on a fait. Dieu merci, on s'est refait sur les revenus commerciaux. Dieu merci, on a fait 2-3 trucs sur le sportif. Mais ça rend l'économique quand même super compliqué. Mais moi, j'ai un manque à gagner aujourd'hui sur les droits domestiques que je calcule être entre 15 et 25 millions d'euros pour un club comme Lens qui fait avant vente de joueurs 60 millions d'euros. C'est considérable. C'est considérable, c'est presque un tiers de mes revenus avant vente de joueurs. Donc, moi je tire la sonnette d'alarme depuis un certain temps. Ce que je vois qu'il y a un peu de momentum maintenant, mais je continuerai à le faire.
Joseph Gourlion, le truc c'est que vous parlez de momentum, mais vous êtes sorti du bois, vous êtes sorti de la tranchée à deux. Moi je suis étonné, un, du timing et deux, de la stratégie. Le timing... avant, vous avez reproché à tous, collectivement peut-être, et à vos collègues de pas assez sortir et de pas assez parler. Bon, là, c'est le cas. Vous prenez avec vous Franck McCourt, c'est un soutien de poids parce qu'il représente un gros club, le deuxième club français, celui qui a terminé deuxième la saison dernière. Mais le timing, à 5 jours de l'AG qui pourrait éventuellement renverser la table.
Deux jours maintenant.
Mais enfin, la prise de parole était 5 jours avant.
Il y a 3 places à prendre. Si ces trois places sont prises par des opposants, certes, au système, plutôt pas mal.
Certes, mais pourquoi, mais c'est la stratégie, ma deuxième partie de ma question, pourquoi vous n'avez pas réussi à être plus nombreux, en fait? Parce que tout le monde, maintenant.
Où sont les autres?
On a parlé de Lyon.
Ils sont là, mais dans l'ombre.
Ouais, mais ils
parlent pas assez, c'est vrai.
Pour partir à la guerre. Vous êtes parti à deux. Vous connaissez la brune, vous connaissez l'animal.
J'ai pas vu beaucoup de clubs qui l'ont défendu ces jours-ci.
Donc vous pensez que c'est déjà un accord tacite?
Il n'y a pas beaucoup de présidents, ce que j'avais vu dans le passé, qui sont sortis de leur tranchée.
Ils sont en Ligue 2, les deux plus grands soutiens.
Ils ont quitté leur club.
Ouais, en plus. Ouais.
Damien Comoli,
River. Je pense qu'il y a beaucoup de présidents de clubs, et je les comprends quelque part, qui, soit parce qu'en fait, ils ne sont pas l'actionnaire directement, ils ne sont pas présidents propriétaires, soit parce qu'en fait, ils ne se sentent pas quelque part de prendre la parole dans les médias sur ce type de sujet-là, n'ont pas envie de s'exprimer. Ils n'en pensent pas moins.
Mais est-ce que vous avez des messages de leur part qui vous disent bravo, avec vous?
Bien sûr. Alors, ce qui est le plus étonnant, comme dans cette affaire, depuis un certain temps, c'est que les messages et les soutiens viennent de l'extérieur de la Ligue. C'est là, encore une fois, où on doit se regarder un petit peu, nous les présidents, dans le miroir et se dire, on a raison et tout le monde s'est trompé, soit, quelque part, ils ont peut-être raison, tous nos supporters, tous nos fans, les hommes politiques, maintenant le législateur s'en est mêlé. Donc, à un moment donné, va bien falloir...
Tout le monde dénonce ce système aujourd'hui.
Tout le monde le dénonce. Personne n'est content avec ce qui se passe. Donc, il va bien falloir qu'on prenne le taureau par les cornes.
On continue la discussion dans quelques instants avec Joseph Gourlion, toujours 3-2 pour l'Italie face à Israël. Et puis l'Algérie n'a pas réussi à gagner face à la Guinée aujourd'hui 0-0. Donc pour l'instant, les Algériens ne sont pas encore officiellement qualifiés à la Coupe du Monde. On fera le point un peu plus tard sur tous les résultats de ce lundi. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h17, Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jean-Luc Tour sont là, Joseph Gourlion est notre invité ce soir et merci encore d'être venu dans notre studio, président propriétaire du Racing Club de Lens. Tiens, on a une petite actu lensoise d'ailleurs, chez les Espoirs, puisque Robin Risser est dans les buts des Espoirs ce soir, face à la Serbie, Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Salut Gilbert, salut à tous, effectivement, ça fera plaisir à Joseph Gourlion, son gardien est entré en jeu à la pause, à la place de Guillaume Rest, et ça fait 2-0 pour les Bleuets. Il y a eu un superbe but dans la lucarne de Matistel dès la deuxième pour ouvrir ouvrir cette rencontre. À l'instant, ils viennent de doubler la mise avec un débordement de Maouissal Monégasque, le centre en retrait, et Louis Leroux, le Nantais, qui met une belle frappe du gauche dans le petit filet. Match pas d'un excellent niveau, la Serbie est assez faible, donc les Bleuets sont assez maintenant largement devant. 2-0 pour les hommes de Batic. Match amical, puisque le match de qualification à l'Euro a été reporté vendredi dernier face au Luxembourg. La 61e, 2-0, Gilbert.
Bon, fais gaffe que Romain Rissard ne se blesse pas. On a déjà des histoires récentes.
Je suis ça.
Bon, est-ce que le but premier de cette interview croisée avec Franck McCourt est clairement de dégager Vincent Labrune ?
Disons de changer la gouvernance. Changer la gouvernance. Moi, je ne veux pas rentrer dans un débat sur les personnes.
C'est lui qui incarne quand même cette gouvernance aujourd'hui.
Oui, mais en même temps, c'est la gouvernance qui a failli. Enfin, on ne peut pas tout lui mettre sur le dos. Hein, il y a aussi
les dirigeants sont également responsables de l'avoir soutenu si longtemps.
Il y a des gens qui l'ont voté, il y a des gens qui l'ont soutenu.
Eh oui.
Moi, je me rappelle à un moment donné, bon, toute la France, y compris la ministre d'ailleurs, regardait Noël Le Graët en disant c'est pas possible, il faut qu'il sorte. Et la Fédé l'avait défendu jusqu'au bout. Quoi.
Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, Vincent Labrune explique dans les conseils d'administration, il dit attendez, mon salaire et mes indemnités, c'est vous qui les avez votés, messieurs. Donc après tout.
Ah non, mais de toute façon, il est là parce que les dirigeants du football français, en gros, n'ont fait que des conneries depuis des années. À le soutenir, à marcher derrière.
Donc faut pas individualiser l'affaire.
Ils se sont mis au pas derrière Nasser Al-Khelaifi, puisque c'est lui qui dirige tout. Oui, bien sûr. Maintenant, à un moment, il faut. Quand tu as à ce point démontré ton incompétence, quand tu as monté des business plans où tu annonçais un milliard et que le milliard s'est transformé en zéro, dans quelle industrie ça existe que le mec reste en poste? Il n'y a pas un domaine de l'économie où le mec reste en poste. Et il l'est uniquement parce qu'il est soutenu par le plus puissant des présidents. D'ailleurs, Joseph Hugourian, quand on regarde un petit peu à chaque fois qu'on cherche à comprendre, mais pourquoi le président, il dit, ce président de club, il dit ça, pourquoi, parce que ça paraît tellement aberrant de soutenir Nasser vu Labrune, vu la situation économique du foot.
Il y a un an, il fait 85% pour être élu.
Et puis en fait.
Alors, cela dit, là encore une fois, on revient sur des sujets de gouvernance. On n'a pas vraiment eu de vrais candidats. Si la LFP avait été une entreprise normale, il y aurait eu un comité au sein du conseil d'administration qui aurait dit bon ben on va chercher un remplaçant pour où on va ouvrir pour voir s'il y a des candidats, et ils auraient ouvert à tout le monde. Là, je veux dire, pour que l'INED soit candidat, il a fallu qu'il fasse des sauts d'obstacles, des sauts mortels.
Il a fallu que la ministre intervienne
pour que le type soit candidat.
Et d'ailleurs, la réforme de la gouvernance, c'est un des enjeux de la réforme de la gouvernance qui n'est pas gagné.
Moi, si vous voulez, j'ai quelques objectifs. Le premier, c'est qu'on laisse la chaîne
Ligue 1 Plus,
qu'on la laisse vivre. Hein, on nous avait annoncé que c'était la catastrophe, que ça se ferait jamais. Maintenant, ça semble.
De toute façon, il n'y a pas d'autre solution.
Il n'y a pas d'autre solution.
Voilà, tout simplement.
Donc, bon, je vois bien qui peut avoir intérêt à tuer la chaîne, mais en tout cas, pas les clubs.
Alors, en ce moment, ils se sont mis à deux, hein, Canal et Bein, main dans la main. Donc,
voilà. Nasser Al-Khelaifi, tu me diras, c'est Bein, alors.
Là encore, moi, je comprends. Enfin, je veux dire, il y a des choses que je comprends. Il y a des intérêts économiques en jeu. Et je comprends certains acteurs qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une ligue qui ait sa chaîne et qui soit indépendante et qui prospère, entre guillemets. Il va nous falloir du temps.
Ah oui.
Ça ne va pas se faire d'un jour à l'autre. Moi, quand je vois des gens qui disent, non, mais après quelques semaines, non, mais finalement, c'est quoi les revenus de ce truc-là? Où est-ce qu'on va avec cette chaîne? Tout ça. Attendez, je veux dire, on a bousillé notre produit pendant 5 ans, hein, voire plus.
Ouais, enfin, les présidents qui disent ça, on a bien compris pourquoi ils le disaient.
Non, on a bien compris. Mais on a bousillé notre produit pendant 5 ans, ça ne va pas, en 3 semaines, on ne va pas se rabibocher avec nos clients, entre guillemets, avec les gens qui veulent nous regarder. Et on a d'ailleurs, on part avec 8 matchs sur 9. Ce qui est déjà un handicap. Et puis mon deuxième sujet, c'est la répartition. Donc il faut qu'on remette la répartition sur la table, parce que là, on est sur des extrêmes où les petits clubs ont littéralement plus rien du tout. C'était l'exemple que je donnais tout à l'heure sur les droits domestiques pour Lens. Alors Dieu merci, nous on a un peu de droits internationaux parce qu'on a joué un peu de Champions, on a joué un peu de Conference League, ça n'a pas duré très longtemps, mais on a joué quelques matchs internationaux. Mais je veux dire, il y a tout un certain nombre de clubs qui n'ont vraiment plus rien à se mettre sous la dent et qui n'ont pas les revenus commerciaux que moi, à Lens, je peux avoir.
Donc Franck McCourt, il est ouvert à cette à un Franck changement McCourt, de la répartition.
Franck McCourt,
parce que lui, c'est pas forcément son intérêt.
Non, Franck McCourt est complètement ouvert. Moi aujourd'hui, je dois le dire à mon grand regret, mais mon seul mon vrai espoir, c'est que la proposition de loi Savin-Lafond prospère.
Alors, vous savez qu'il y a une mauvaise nouvelle aujourd'hui.
C'est pas gagné avec
ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est repoussé.
Non, il faut qu'il y ait dissolution. Et pour l'instant, elle n'a pas été
annoncée. Oui, mais c'est vrai que ce qu'on redoutait pour la loi, c'était justement dans ce timing un problème politique, une incertitude politique à l'automne, et on est en plein dedans. Donc c'est vrai que c'est pas de très bon augure. Mais
oui, c'est quand même dommage, parce que c'est pas non plus des choses extraordinaires et extravagantes qu'il y a dans cette loi. C'est du bon sens. C'est quand même dommage que ce soit deux sénateurs qui se soient posés, qui réfléchissent au sujet, qui interviewaient des gens, et à la suite de leurs auditions, qui soient arrivés à des conclusions, somme toute, encore une fois, de bon sens. Je pense que ce boulot-là, on aurait pu le faire nous-mêmes.
C'est vrai.
Et c'est dommage.
Je voudrais revenir sur l'équilibre des pouvoirs, parce que pour comprendre les raisons qui peuvent pousser un club à se positionner de telle ou telle façon, souvent il faut regarder un petit peu au-dessus, le patron et les intérêts qu'ont les uns et les autres. Parce que moi, je vous avoue que sur le papier, je vois absolument aucun intérêt à certains clubs à faire perdurer la situation actuelle. Donc parfois il faut chercher. Alors Lille, moi je me dis, mais Lille, ok, bon, est-ce qu'elle est verrouillée, leur place en Ligue des Champions? Pas trop. Sauf qu'au-dessus d'Olivier Létang, il y a un vrai patron, il n'est que président délégué, Olivier Létang. Il y a un vrai patron, j'ai oublié toujours son nom, hollandais, là. Comment il s'appelle, hollandais?
Martin Peterman.
Voilà. Et lien avec le Qatar. Évident.
J'ai pas de commentaire à faire là-dessus.
Non, mais si, il faut le dire.
Si vous le dites.
Bon. Donc, l'explication de la position, elle est là.
Je vais pas.
Non, mais c'est toujours comme ça.
Moi, je ne peux pas commenter sur d'autres clubs, honnêtement, c'est pas ma.
Ok. Non, mais alors moi, je vais le faire. Rennes. A priori, Rennes a tout intérêt à ce qu'il y ait une meilleure répartition, à ce que la Ligue 1 marche, à ce que Ligue 1 Plus fonctionne. Bon, le problème, c'est l'actionnariat de la famille Pinot. Le Qatar est présent, c'est un énorme groupe, et ça peut éventuellement les bloquer.
Je ne pense pas que le Qatar soit présent.
Dans le groupe Kering, il y a les intérêts, il faut peut-être pas trop les fâcher non plus. Est-ce que vous avez déjà réussi à comprendre?
Tu peux rajouter la famille Arnault qui a des liens avec le Qatar aussi désormais. Bon, tu veux me dire, c'est les nouveaux entrants dans le jeu.
On va dire qu'ils se connaissent. Bon. Est-ce que vous avez déjà réussi à comprendre pourquoi le PSG tient cette position? Parce que finalement, même s'ils donnaient tout l'argent de leur droit télé, si demain Nasser vient au CA et dit, je ne sais pas combien il prend en droit télé, pas grand-chose. Bon, j'ai 20 millions.
En droit domestique, tu veux dire?
Bon, en droit domestique, il n'y a plus grand-chose. Mais oui. Bon. Prenez-les, les droits télé. J'en veux plus. Je vous les distribue. Même s'il faisait ça, et qu'il doublait même la somme, il n'aurait aucune inquiétude pour sa place en Ligue des Champions.
Sans doute.
Je n'arrive pas à comprendre ce qui peut, d'un point de vue économique, politique, philosophique, qu'est-ce, à part le seul truc, la volonté de toute puissance et d'écraser. Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt à ce que le PSG adopte cette position-là. Il n'y en a pas. Ils ne se mettront pas en danger pour la Ligue 1. Ils ne se mettront pas en danger. Ils n'auront pas. Bon, il y aura un peu plus de compétitivité, très certainement. Et ce sera bien pour tout le monde. Mais bon.
Si tu pourrais dire quand même, vis-à-vis du fair play financier européen, tu as besoin de justifier des lignes de recettes les plus importantes possibles. Ça, ça a été un des problèmes du PSG à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a eu la question du stade. Enfin, c'est pour ça que. Non, mais là, on est tombé.
Le fair play financier, ça n'a jamais.
C'est un problème pour le PSG.
Non, mais les droits domestiques.
Ça n'a jamais été un problème pour personne.
Les droits domestiques,
non, mais maintenant, ça ne vaut plus rien. C'est un raisonnement pour gagner le plus d'argent possible à un moment donné.
Donc, est-ce que vous en avez déjà parlé avec lui? Est-ce que vous comprenez ça?
Bon, moi, j'en ai pas parlé avec lui et je ne vais pas parler pour lui. Ce que je constate. Et quelque part, le Real Madrid et Florentino étaient très clairs là-dessus. Au moins, ça a le mérite de la sincérité et de la transparence. Ils ont dit à un moment donné, nous...
On veut une Super League.
Comment le dire? En accord un peu avec les diffuseurs et le monde médiatique, on pense qu'on crée plus de valeur pour tout le monde si on joue contre le Barça, au lieu de, je sais pas, deux fois par an, on joue quatre fois par an. Si on joue plus de fois contre l'Inter et contre Liverpool et contre le Bayern et contre le PSG que en jouant contre Alaves, Huesca,
okay.
Levante. Bon.
Donc lui, il veut une Super League, il l'a dit clairement.
Donc lui, au moins, ça a le mérite de la transparence, c'est clair, il affiche la couleur. Et derrière, derrière, il dit, bon, ben, on va réfléchir, parce qu'on va pas quand même laisser crever tous les petits, là. On va réfléchir, on va faire plusieurs ligues, on va réfléchir au type de revenus qu'ils peuvent avoir. Après, ils ont cette idée, en fait, de faire une ligue qui est basée sur les revenus de la publicité, mais il pourrait y avoir un deuxième produit, en fait, où tu prends ton abonnement. Bon, enfin, c'est, là, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gros clubs, peut-être pas seulement le PSG, peut-être dans d'autres pays aussi, qui ont une vision qui est celle-là, qui est de dire mais
élitiste, réformer le football mondial pour arriver
à jouer
un nouveau football
à Angers où je pourrais peut-être même blesser certains de mes joueurs, alors que
moi ça je le comprends. Moi ça j'ai toujours compris cette idée. Je l'entends.
Moi aussi.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'un salarié FI, lui, il a fait partie de la fronde. Il est fait partie de ceux qui ont dit « Moi, je suis le chevalier blanc, je sauverai les ligues nationales, je n'irai jamais dans la Super League, je suis ennemi. »
Tu ne parles pas de la fronde dont on parle là avec
la fronde anti-Super League.
Oui. Parce que,
il y a plusieurs fronds.
Pour qu'on comprenne bien. Ouais.
Il s'est mis du côté, il a endossé le costume du chevalier blanc à l'époque.
Regarde ce que tu fais, pas ce que tu dis.
Mais oui, j'ai bien compris.
D'ailleurs, dans l'interview dans le Figaro, Franck Macourt dit « Nasser Al-Khelaifi, nous voyons juste le monde différemment. Enfin, » c'est un problème de paradigme.
Et après, pour revenir à ce que disait Daniel sur pourquoi le PSG fait ça, en dehors d'une idée d'une toute-puissance, d'écraser tout le monde, je ne pense pas que la stratégie soit de se dire entre eux « on va écraser tout le monde ». C'est de se dire...
C'est une vision très Qatar.
Oui, c'est sûr qu'on peut tout acheter, on peut écraser tout le monde, ça je suis d'accord. Mais en dehors de ça, même sportivement...
Je t'interromps juste, Macourt... Et je pense que c'est là, en fait, il y a la différence philosophique. Macourt, il vient du sport américain. Le sport américain, c'est le sport le plus égalitaire, le plus socialiste. Dès qu'on a fini le championnat, on remet tout dans un grand pot, je veux dire, commun, et on fait en sorte que le plus petit, le plus faible du championnat d'avant, il ait sa chance pour prendre les meilleurs joueurs au départ. C'est comme ça que fonctionnent tous les championnats. Et on a ce système aussi de play-off, de manière à créer un peu de suspense au cas où il y a vraiment quelqu'un qui est au-dessus des autres. On crée un espèce, à un moment donné, on arrête le championnat et on dit bon, on passe en système coupe, si vous voulez. Et ça, c'est un truc très américain. Mais de manière à créer des équilibres.
C'est vrai, mais c'est culturel.
Parce que la Ligue, enfin, je veux dire, des produits où finalement le même club depuis 10 ans gagne chaque année la Ligue, je veux dire, ça n'existe pas aux États-Unis.
Oui, mais l'une des raisons justement pour lesquelles je pense que le PSG continue à ne pas vouloir, par exemple, redistribuer ton idée utopique, c'est les droits domestiques, c'est que le PSG a déjà perdu la Ligue 1. Le PSG a perdu deux fois la Ligue 1 et pour eux, c'est deux fois de trop. Et donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, Nasser Al-Khelaifi, dont la dernière fois quand Lille l'a gagné, il se dit pas comme nous, la Ligue 1, il ne pense pas absolument
d'aller en Ligue des Champions.
Non,
c'est
ça
qu'on...
Ça, d'accord, mais pour le PSG.
Il s'encarre aujourd'hui.
Ouais, il s'encarre, mais il faut que le PSG soit champion.
Il a perdu deux fois. Enfin, la première fois, il venait d'arriver. Bon, il a perdu une fois.
Il a perdu une fois.
Non, deux fois.
Monaco 2017 et.
Il y a trois fois
en tout. Avec Montpellier,
voilà,
si on veut.
Montpellier, on va dire,
Montpellier, ça compte pas. On va dire deux fois.
Deux fois
en 10 ans. On peut toujours. Heureusement, c'est le football, c'est ce qui fait la beauté du football par rapport à beaucoup d'autres sports. On peut toujours gagner contre le PSG, ça peut arriver. Enfin, quand vous regardez la saison dernière, je crois qu'ils ont gagné ou fait match nul tous leurs matchs jusqu'à la 28e journée où ils ont été sacrés champions et puis ils ont levé le pied. Quoi. Ça a été.
Tout à fait.
C'est un produit qui est quand même un peu. Comment dire, un peu indigent. Enfin, où est la beauté du produit? C'est dans les gens qui vont se disputer les deux trois places qui viennent derrière la première place et dans ceux qui vont éviter la relégation.
On en est là.
C'est un peu ce dont on débat.
On va continuer la discussion. On va parler un peu de Ligue 1 Plus dans quelques instants, de l'arrivée de Nicolas Taverneau dans le game. Ça peut avoir son importance pour la suite. Et puis tout de même du Racing Club de Lens et puis au début de saison. C'est important. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h35, Daniel Riello, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour sont là. Joseph Augourlian avec nous, patron du Racing Club de Lens. Donc, suite à l'interview croisée avec Franck Macourt dans le Figaro, Joseph Augourlian et Franck Macourt tirent la sonnette d'alarme concernant la gouvernance du football professionnel. On va y revenir dans quelques secondes, mais juste là, on a un match de folie entre Israël et l'Italie. On en est à 5-4 pour l'Italie, avec 4-4 il y a quelques instants. C'est peut-être la place à la Coupe du Monde pour l'Italie qui se joue, hein, parce que si l'Italie ne gagne pas, ça pourrait être foutu même pour les barrages. Donc c'est chaud.
Ah bon ?
Ah oui, t'as pas vu la différence de points ? On fera le point tout à l'heure.
Alors je me permets, même s'ils sont pas dans les deux premiers ou dans proches, grâce à la Ligue des Nations, ils devraient pouvoir aller en barrage.
Absolument.
Ouais, mais le barrage, t'es sûr de dépasser, toi ?
Ah bah non,
mais là, c'est autre chose. Le débat, c'était est-ce qu'ils vont aller en barrage ?
Ils ont une chance d'aller en barrage derrière.
Bon, on y reviendra tout à l'heure. Profitons de la présence de Joseph Hougourlian. On va changer de sujet. Je rappelle juste, pour faire suite à tout ce qu'on s'est dit là, que donc mercredi, il y a une réunion à la Ligue. Le conseil d'administration se réunit avec un vote. Et
Une
assemblée générale. Et donc, vote pour des cooptations au conseil d'administration. On a les noms, Daniel.
Il y a trois places à récupérer.
Des candidats,
trois
exactement.
Places, quatre candidats.
Les candidats sont
Roussier, Kita,
Bocquet, Ferry et Kita.
Voilà. Ferry, Pro Labrune, le reste non.
Bon, donc si
pour remplacer Caillot, Nicolas, River et Comolli. Non, Nicolas, c'est Futuni. Il est là pour Futuni et donc il a déjà été remplacé
Futuni,
par Mélero.
Ça a été verrouillé par le PSG. Ils ont mis Mélero. Donc ils ont mis quelqu'un qui n'est pas président. Ils ont réussi à le mettre à la tête de Futuni. Normalement, ça ne doit
mais
pas
qui
arriver.
Qui a voté pour ça en fait? C'est ça aussi la question. C'est à chaque fois derrière tout ce qu'on dénonce, enfin ce qui est dénoncé effectivement, Mélero, etc.
Savoir, hein.
Non mais c'est la question quand même fondamentale. C'est-à-dire que votre fronde, votre cri d'alerte déjà de l'année dernière, n'a pas été suivi puisque Vincent Labrune a été réélu. Pourquoi ce serait différent mercredi?
Voilà, maintenant il y a des nouveaux présidents qui sont arrivés quand même. Hein.
Oui, mais pourquoi ces nouveaux présidents ne vont pas avoir les mêmes intérêts vis-à-vis de Nasser Al Khelaifi, de Vincent Labrune, d'une façon ou d'une autre? Pourquoi ce serait différent mercredi?
Non, d'abord mercredi, faut pas attendre de miracle de l'Assemblée générale, puisque encore une fois, vous l'avez rappelé, c'est juste une question d'élire trois présidents au sein du conseil d'administration de la Ligue. Je pense que de toute façon, il va pas y avoir de révolution
mercredi. Oui.
Mercredi, mais ce vers quoi on tend, c'est on va vers un changement de gouvernance. Moi, mon point depuis le début, c'est de dire, de toute façon, ce changement, il aura lieu qu'on l'ait fait nous-mêmes ou pas.
Vous dites dans une interview, sinon c'est le politique qui le fera.
Mais c'est
en cours,
c'est en cours avec la proposition de loi. Alors après, le gouvernement qui tombe, peut-être que ça va retarder l'arrivée de cette proposition de loi. Mais c'est des choses qui vont se passer, sinon on n'est pas capable de nous prendre en main. Ça me semble une évidence. Donc autant prendre les choses en main.
Bon, donc mercredi, on verra qui est élu et ça donnera quand même une tendance au sein du CA.
Mais après, l'autre question quand même sur Vincent Labrune, c'est il a déjà annoncé qu'il allait partir une fois que le projet de loi serait adopté et que son poste n'existerait plus, entre guillemets.
Si le projet de loi est adopté, attends, il y a des conditions quand même. Moi, je le vois pas s'en aller comme ça gratos. Hein.
D'abord, moi, j'ai pas de. C'est pas une question personnelle de vendetta personnelle vis-à-vis de Vincent Labrune. Donc, c'est pas le départ de Vincent Labrune qui est, je dirais, le but de toute notre stratégie, entre guillemets. Notre stratégie, encore une fois, elle est centrée sur une amélioration de la gouvernance, une amélioration des instances. Et à terme, le but ultime, c'est que cette chaîne puisse vivre et qu'on ait une meilleure répartition des droits, et des droits non seulement domestiques, mais aussi internationaux. À l'évidence, séparer les droits domestiques des droits internationaux, c'était une erreur. Parce que les droits internationaux, c'est donner plus d'argent à ceux qui en ont déjà plus.
Les droits internationaux, ils sont croqués principalement par le PSG.
Vous voudriez qu'ils viennent dans un pot commun, qu'on reverse à tous les clubs?
Oui, comme c'était avant.
Quelle est votre proposition?
En fait, les meilleures répartitions,
on en avait parlé la dernière fois.
Ça a existé, hein. Ça a existé, les répartitions normales, juste comme ça se fait ailleurs en Europe, dans notre football. Ça a existé.
C'est quelque chose qui est arrivé avec CVC. Alors, il y a eu un moment où, effectivement, la Ligue et Vincent ont beaucoup essayé de promouvoir l'idée qu'il fallait préserver le classement de la France en termes de nombre de points UEFA, que c'était important pour le nombre de places en Champions League, que c'était important pour le rang européen de la France, et que donc il fallait investir dans ces clubs. Et puis qu'on aurait, une fois que ces clubs auraient bien fait, qu'on aurait un effet ruissellement des gros clubs vers les petits clubs. Bon, voilà, l'effet ruissellement, je l'attends toujours.
Labrune, il défendait déjà cette idée quand il était président de l'OM. En 2014, déjà, il était à fond sur le sujet.
Mais moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que, à l'évidence, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, on nous dit, non, mais finalement, de quoi est-ce que les petits clubs se plaignent parce qu'ils sont, ils sont pas partis en faillite? Quand on regarde, en fait, toute la pyramide, on voit quand même que ça commence à s'effondrer par le bas. Alors, c'est pas des clubs de L1 qui partent en faillite, Dieu merci. Enfin, on voit des clubs de L2 ou de National qui s'effondrent. Et, c'est pas, vous savez, c'est pas forcément des faillites qui nous attendent. c'est le fait de c'est une paupérisation de nos clubs. Nous, on a dû vendre énormément de notre effectif juste pour faire face à nos besoins à court terme.
Et on l'a vu d'ailleurs avec Brest, puisque Brest a récupéré pourtant de l'argent de la Champions League, et malgré ça,
bah, ils étaient dans une telle situation
qu'ils ont que pu finalement combler leur
Donc soit vous avez perte. Soit vous avez un actionnaire qui est prêt à remettre au pot de manière infinie et indéfinie, soit vous gérez votre club à peu près, je dirais, normalement, et vous essayez de finir votre année et de faire votre compte de résultats, auquel cas ben, vous êtes obligé de vous paupériser.
Mais pour revenir,
but pour Israël.
Non, mais c'était pas loin.
Bon, pour revenir, attends, je qu'on avance, il faut qu'on parle de Ligue 1 Plus, justement.
Ouais. Non, mais pour faire le lien avec Ligue 1 Plus, Joseph Gourlion, vous avez dit à l'instant, il faut laisser travailler Ligue 1 Plus, il faut qu'on laisse prospérer le produit. Okay.
C'est fondamental.
Ça, ok, mais l'attaque au bélier de Bein et Canal, est-ce que justement un changement de gouvernance vous rendra suffisamment fort pour être en mesure de résister à ça? Parce que là vous avez des entre guillemets des mastodontes en face.
Oui, enfin le succès de Ligue 1 Plus en termes de nombre d'abonnés démontre que finalement on peut très bien vivre notre vie tant qu'on a des réseaux de distribution à travers notamment les grands opérateurs télécoms, à travers notre propre app, à travers d'autres opérateurs de médias comme DAZN, et pourquoi pas à terme à travers Canal ou Bein, enfin Bein d'ailleurs qui a un de nos matchs. Donc ça c'est pas...
Que vous récupérez l'année prochaine.
Qu'on récupérera
l'année prochaine. Mais est-ce qu'à terme, même si c'était l'objectif poursuivi et on y a cru mais ça ne s'est pas fait, est-ce qu'il ne faudra pas quand même, à un moment ou à un autre, retourner voir Canal?
Je pense qu'il faut retourner voir Canal une fois qu'on a démontré qu'on a un produit.
Et qu'on et a ça, il va chose. Falloir un an ou deux. Quoi.
Il va nous falloir au moins deux saisons.
Eh oui.
Il va nous falloir la deuxième saison avec le neuvième match.
Mais la deuxième saison qui n'aura pas l'apport d'argent de Bein, du coup, puisqu'il n'y a pas ce dernier match.
Oui.
C'est quand même beaucoup.
Bah oui, mais enfin, on espère quand même qu'il y aura beaucoup
Bein
plus d'abonnés.
Qui n'a pas payé la première traite et qui est, oui. Et l'argent, les fameux 20 millions pour le sponsoring machin, ils ont disparu.
Oui, on parle de 78 millions.
Ils ont disparu. Parce que quand ils se plaignent là, parce qu'ils veulent quand même faire un procès pour récupérer 29 millions quand même. Ouais. C'est pour en gros mettre un gros coup de couteau dans le dos de la Ligue. Donc c'est marrant parce que c'est donc le PSG qui veut, le PSG Qatar, la grande famille, réclame quand même à la Ligue 29 millions, donc c'est pour les saigner. Et les fameux 20 millions qu'ils avaient promis en Qatar sponsoring machin, on n'a pas vu la couleur.
Et pendant ce temps-là, Nasser Al-Khelaifi s'inquiète pour la Ligue 1.
Et il dit qu'il s'inquiète.
Ouais.
Non mais
ouais.
C'est vraiment la folie quand même. C'est vraiment la folie la situation de notre foot. Hein. Je sais pas si tous les gens qui nous écoutent, tous les supporters en France se rendent compte de tout ça. Hein.
C'est vrai que ce qui est assez étonnant avec Bein, c'est qu'ils s'autoproclament les grands amis du football français. Mais enfin, avec des amis comme ça, franchement... Qui a besoin d'amis.
Est-ce que vous avez une projection sur Ligue 1 Plus, sur le nombre d'abonnés qu'il faut pour que vraiment les clubs retrouvent un niveau de droit télé raisonnable? Ou est-ce que pour l'instant, on est un peu dans le flou?
Bon, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un plan économique qui espère qu'on arrive à quelque chose comme 2 à 2,5 millions d'abonnés et que le prix petit à petit remonte vers 19 euros à l'abonnement. Donc avec ça, on va toucher des niveaux de revenus pour les clubs autour de 300-350 millions d'euros. Ça devient, il me semble, assez conséquent.
Ça c'est à quelle échéance, si ça fonctionne?
C'est à échéance, c'est saison 3. Saison 3. Alors, après, en fait, bien malin, celui qui sait en fait où est-ce qu'on peut aller. Parce que ce qui s'est passé, c'est que on était avec Canal, personne ne savait vraiment, sauf peut-être Canal, parce qu'ils ont des analyses très fines sur les gens qui prennent les abonnements Canal, mais personne ne savait vraiment qui prenait l'abonnement Canal pour le produit L1. Et il y avait ce chiffre, entre 2 et 3 millions d'abonnés, qui prenait l'abonnement Canal pour le produit L1. Canal, depuis, nous a fait la démonstration, malheureusement, qu'ils vivent très bien sans la L1.
Et la L1, le produit a été fortement dévalué de par le manque de compétitivité aussi.
Exactement. Alors, le manque de compétitivité, on a tout fait. Enfin, je veux dire, on a pas arrêté de changer de diffuseur, on a éclaté le produit, On a mis des prix ridicules l'an dernier sur le produit. Enfin bon, on a fait la totale de tout ce qu'il faut pas faire. Et encore une fois, c'est pas, faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. C'est vous êtes vendeur d'un produit. Si vous commencez à dire je distribue dans tel supermarché, et puis vous changez en cours de saison de supermarché, et puis ensuite vous doublez le prix, et puis ensuite vous retirez le produit des étalages. Enfin bon, on a perdu énormément d'abonnés et on a perdu beaucoup de gens dans toutes ces erreurs qu'on a pu faire. Là, on a l'opportunité de repartir, de faire quelque chose de propre, de faire quelque chose d'intéressant, un bon produit, à un bon prix, me semble-t-il. Donc il faut voir jusqu'où on peut aller avec, avec ce produit. Moi, je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que pendant que beaucoup de gens discutent de la validité du produit L1, beaucoup de gens critiquent la L1, beaucoup de gens disent « non, mais ça vaut rien, en fait, qui s'intéresse à un match entre Lens et Toulouse ?» Ben moi, ce que je vois, c'est que mon stade, il est plein depuis le retour du Covid, que l'affluence en L1 a pas arrêté d'augmenter depuis 3 ans, que l'affluence en L2 arrête pas d'augmenter depuis 3 ans, et que donc que les gens, si on leur montre pas le produit à la télé, ils sont quand même, ils se déplacent et ils vont
après,
au stade.
Après la vraie question, Flo, juste qu'on fasse une pause et après on aura encore 10 minutes ensemble. Après, tu auras la parole, c'est promis.
Okay.
On se retrouve dans quelques instants avec Joseph Ogourlian, encore 10 minutes ensemble avec Lens au programme. C'est promis cette fois pour de bon.
RMC 22h minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h52, Jean-Louis Tour, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Joseph Ogourlian avec nous, patron de Lens, pour reparler de l'interview avec Franck Macourt, un petit mot croisé concernant la gouvernance et parler de Lens dans quelques instants. C'est terminé d'ailleurs chez les Espoirs, France-Serbie, le score rapidos, Xavier.
Ouais, c'est terminé, victoire 3-0 des Espoirs, doublé de Matistel et un but de Louis Leroux, donc victoire assez facile pour les Bleus et Gérard Baltique. Tout va bien pour Robin Rieffer, Joseph Ogourlian, il pourra bien jouer contre le PSG. Il a fait une intervention, il l'a bien faite. Robin Rieffer, 3-0 pour les Bleus.
Merci Xavier. Avant de parler de Lens, dernière question de Flo sur Ligue 1 Plus.
Joseph Ogourlian, sur l'objectif que vous avez fixé en saison 3 sur les 2 500 000 abonnés éventuels, vous avez parlé des stades pleins en Ligue 1, c'est vrai, mais j'ai la sensation que c'est deux choses différentes malgré tout. C'est-à-dire qu'on peut difficilement traduire le fait que les gens viennent voir leur club dans leur stade, ça c'est indéniable et c'est effectivement quand même un élément de valeur capitale, avec le fait qu'ils vont acheter la possibilité de voir les 9 matchs de la journée de Ligue 1. Ça c'est la première chose et c'est pourquoi on avait imaginé, nous, dans toutes nos hypothèses, de pouvoir aussi parfois proposer des choses plus régionales ou plus locales, la possibilité de s'abonner à son club ou des choses comme ça. Donc ça c'est la première chose qui pourrait vous empêcher peut-être d'atteindre cet objectif, qui est finalement un objectif, je trouve, qui est basé sur d'anciennes valeurs. C'est-à-dire qu'avant, oui, on achetait la Ligue 1 et pour avoir tous les matchs. Aujourd'hui, il y a une vision peut-être un petit peu plus locale. Puis la deuxième chose, c'est est-ce que le vrai test ne sera pas l'an prochain quand vous aurez récupéré le 9e match et que là, finalement, on saura vraiment tout de suite si les gens veulent si ça fait la diff pour avoir un nombre d'abonnés décent.
Alors oui, le vrai test, c'est évident qu'une fois qu'on a tout le produit, c'est le vrai test, parce que aujourd'hui, moi, si je suis un supporter de Lens, que je vais à Bollaert une fois toutes les 2 semaines, et que je prends l'abonnement L1 en me disant, je vais regarder les matchs où ils jouent pas à domicile, et que de temps en temps, j'ai quand même Bein qui vient et qui me dit, nous, on a le match de Lens à l'extérieur, j'ai pas tellement envie de prendre en plus l'abonnement Bein. Ça commence à faire cher. Donc
vous serez déjà beaucoup en saison 2 pour ça.
Oui, mais je dirais même plus en début de saison 2. Maintenant. On est en train de vraiment travailler notre produit et on est en train de créer quelque chose autour de ce produit L1. Il faut qu'on soit constamment plus innovateur et qu'il faut qu'on fasse de plus en plus de choses autour de ce produit. Je pense qu'on a bien commencé. On n'a pas eu beaucoup de temps pour faire cette chaîne.
Il y a des choses très liées, comme d'ailleurs il y en a quelques-unes, des choses, il faut le dire, des éléments liés à chacun des clubs pour que les gens puissent avoir envie de se dire certes, c'est un peu cher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon club. D'ailleurs, un match sur deux, parce que parfois, je vais à domicile. Mais comme il y a pas mal de choses, des produits, des prods internes, des petits films sur les clubs, j'y vais quand même.
Oui, mais c'est un peu le futur d'une chaîne de sport. Hein. C'est de donner de plus en plus de vision de ce qui se passe derrière, dans les coulisses. Hein. Et le foot n'y échappe pas. Le foot est même très en retard par rapport à ce qu'on peut voir. Quand on voit que sur la Formule 1, ils font même des séries Netflix, ils sont très en avance sur nous.
Adrien Thomasson, votre joueur qui a été excellent et le seul, je crois que c'est le seul, qu'on a entendu publiquement dire oui, il faut s'ouvrir, il faut renverser la table, il faut qu'on comprenne, nous les acteurs, l'importance des droits, l'importance, parce que c'est leur salaire aux joueurs après tout, donc il faut bien qu'ils le comprennent. Donc bravo Adrien Thomasson, il était bon. Il s'est bien briefé peut-être, mais il était spontané, mais c'était bien. Justement, Lens, qu'est-ce que vous pensez du début de saison ? C'est pas mal. Deux victoires, nouveau coach, nouveau départ. Bilan faites-vous là ?
Trois matchs, c'est vraiment difficile à dire parce qu'on a fait beaucoup de mouvements cette année.
Dont Thauvin, qui était un bon
coup. On a un nouveau coach, Jean Thauvin. Il faut laisser une dizaine de matchs pour voir un peu comment cette équipe elle travaille ensemble. Il faut voir. Là, on a deux matchs très très compliqués. Probablement avec le PSG.
Le PSG dimanche.
Et ensuite le derby à la maison. Donc c'est deux matchs très compliqués. Je pense que après une dizaine
de
matchs.
S'il y a deux défaites, c'est
pas déshonorable.
C'est ce qu'on attend.
Oui, enfin c'est ce que les gens qui font des paris sportifs attendent.
Exactement. Voilà, c'est la fameuse logique de l'avant-match et tout. Maintenant, si vous voulez
créer, vous avez fait des choix pendant l'été.
La surprise, tant mieux.
Mais il tombe bien parce qu'il tombe après la trêve internationale avec l'absence d'Embélé et Doué.
La dernière fois que Joseph était venu nous voir, il n'y avait pas encore eu. Il y a eu une mini révolution cet été. Nous, on s'attendait pas à la promotion de l'ECA,
Benjamin Parot.
Donc beaucoup de choses ont changé.
Parce que Gilbert parle de la révolution dans les têtes dirigeantes, mais révolution également, depuis janvier, vous avez vendu une tonne.
Ouais.
Mais toutes ces ventes-là, finalement.
Depuis deux ans même.
Ouais, il y a énormément de ventes. Ouais. Et on a l'impression que vous vendez plus que vous n'achetez. Est-ce que c'est justement la situation économique de l'ensemble du football français qui finalement vous oblige à anticiper le fait qu'il ne va pas y avoir les rentrées d'argent des droits télé? Et d'ailleurs, parce qu'on l'a vu ça, on l'a vu dans beaucoup de clubs, on fait la même chose. On vendu, Brest, Flo le disait très justement tout à l'heure, on dit, certains supporters se sont dit, on a fait la Ligue des Champions, on vend des joueurs et tout, et l'argent, ils en ont fait quoi? Mais c'est ça qu'il faut peut-être expliquer, c'est que comme vous allez être limité dans vos entrées, vous êtes obligé, en gros, on va dire, de mettre un petit peu sous le matelas, quoi.
Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'estime que mon manque à gagner sur les droits domestiques, c'est de l'ordre de 20 à 25 millions, ou 30 millions peut-être même de droits domestiques. Ça, il faut bien que je le compense d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas augmenter le prix de mes tickets, je ne peux pas augmenter, je peux demander à mes sponsors de monter leur sponsoring de 50%. Donc je suis bien obligé de compenser par la seule chose que je peux faire, c'est vendre des joueurs. C'est une évidence. Donc encore une fois, les clubs, soit on est très bon, soit on est très bon et on arrive en fait à chaque fois qu'on vend des quantités importantes de joueurs au prix important, ce qui veut dire qu'on vend sans doute nos meilleurs joueurs, soit on arrive à les remplacer relativement rapidement. Bon. Et auquel cas, c'est bien, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Soit ce phénomène de paupérisation va se continuer, va se propager dans le football français.
Et est-ce que le RC Lens est à vendre ?
Non.
Vous le savez ?
Non. Enfin, moi j'ai toujours dit que si il y avait un autre actionnaire avec plus d'argent et avec plus d'idées que moi, je suis là pour aider le club. Et que s'il y a quelqu'un qui fait mieux le job avec plus d'argent que moi, je lui passerai les rênes. Je suis pas là pour empêcher qu'il y ait un bon deal.
Mais on a vu des passages de rênes parfois compliqués parce que quand on veut vraiment vendre, parfois on le vend un peu à. Allez, j'ai pas dire à n'importe qui, mais il y a eu des choses compliquées. Du côté de Lyon, par exemple, il y a eu des
Bordeaux.
Mais justement, moi, ce que je veux éviter, c'est pour ça que j'ai pris des mesures aussi drastiques il y a un an. Ce que je veux éviter, c'est de me retrouver dans une situation où je suis un vendeur forcé. Donc, l'an dernier, le Racing Club a fait, la saison dernière, je dois dire, à l'arrache, on a fait un léger profit. Cette année, on va encore faire un profit avec les ventes de joueurs qu'on fait. Là encore, on ne fait pas des milliers et des cents, on fait un peu d'argent. Pour moi, c'est important. C'est important de faire en sorte que j'ai un bilan avec des fonds propres solides, j'ai un compte de résultats où je ne fais pas des pertes et on n'est pas obligé de remettre à tir larigot.
Et le stade, là
je pense que juste pour finir sur la vente du club, il n'y a pas de miracle. Tant que le football français est dans cette situation, il n'y aura pas de gens qui se presseront au portillon pour acheter des clubs. Les seuls achats de clubs que vous verrez, c'est des achats à des prix au rabais. Hein, c'est pas, vous ne verrez pas de grandes transactions.
Vous avez déjà une idée du prix, vous, éventuel, si le RC Lens était en vente?
C'est vraiment pas une question que je me pose.
C'est vrai?
Oui, vraiment pas. Moi, ça fait 8 ans que je suis. Que je suis dans le.
Justement, le club étant sain, vous dites qu'il n'y a pas de. C'est pas la bonne période, mais dans cette période-là, un club peut-être un peu moins cher qu'il y a quelques années, sain, ça pourrait attirer les convoitises.
Et qui bientôt aura son stade, ça fait un actif en plus.
Oui. Alors, le stade, c'est pas encore fait, hein, parce qu'il y a eu un recours contre la vente du stade par la mairie. On va voir, c'est dans les mains de.
Recours d'un politique?
Recours d'un homme politique, oui.
Oui, mais j'avais entendu, quand vous aviez commencé les travaux, qu'il y avait des élus RN qui n'étaient pas chauds.
Bah, vous savez, malheureusement, on rentre dans une période
d'élections municipales.
Élections municipales. Donc les gens se positionnent et malheureusement, ça ne devrait pas l'être. Mais c'est devenu un
enjeu.
Sujet politique en partie, notamment sur l'utilisation de l'argent.
Il porte sur quoi son recours? Pourquoi il ne veut pas que vous fassiez ça?
Il porte sur le prix de vente du stade.
Il pense que la mairie
pense que la mairie nous l'a vendu trop peu cher. En fait, il se trouve que c'est pas la mairie qui a choisi le prix de vente. Il se trouve que c'est allé dans une division de Bercy qu'on appelle les domaines, hein, qui s'occupe justement de ce type de transaction où une collectivité locale une entité, on va dire étatique, vend un bien public à un acteur privé. Et pendant plus de 2 ans, on a ferraillé avec les gens des domaines qui ont été très durs sur cette transaction, sur le prix potentiel. C'est compliqué d'évaluer.
Ça va retarder beaucoup les recours, ça retarde, hein, c'est long.
Ça peut retarder la transaction.
Ah oui.
De toute façon, moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de donner une viabilité et de faire en sorte que le club soit sain financièrement. C'est ma priorité dans un contexte très compliqué, vous l'avez compris depuis un an.
Merci beaucoup, Joseph Ougourlian, d'être venu. Dimanche, vous serez à côté de Nasser Al-Khelaïfi quand même,
sans
un
doute.
Corbeil.
Moi, j'y serai. Je sais pas s'il y sera, lui.
Ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas toujours là. Le champion n'est pas toujours là, si.
Si, c'est lui qui remet le trophée de la Ligue 1 maintenant à la place de Vincent Labrune. Donc, ça
merci d'être venu. C'était très intéressant comme toujours. Et on suit tous ces dossiers de gouvernance de près dans l'after. Donc mercredi et prochain épisode avec les élections à la Ligue au conseil d'administration.
On m'a attendu, on va voir.
Merci, bonne soirée. Joseph Ougourlian, très bientôt dans l'after. Dans quelques instants, on reçoit David Terrier, président de l'UNFP et de la FIFRO Europe, pour parler entre autres de ce sujet de gouvernance, mais aussi des cadences infernales. Koundé, Mbappé, on en parlait il y a quelques jours. À tout de suite.
RMC, l'after foot.